C'est une nouvelle visite radiophonique, toujours avec Nelly Lafond du Pays d'Arrêt d'Histoire, Mandelot, Angers-Vaudan. Salut Nelly.
Salut.
Et Caroline Entraigue du CAUE, du Conseil d'architecture, d'urbanisme et d'environnement de la Lozère. Salut Caro.
Salut.
Alors on va aller où aujourd'hui ?
Alors on va prendre notre chemin historique et bien connu en Lozère. On va se diriger un peu plus du côté des Cévennes.
Même si le site est quand même en ruine, il est extrêmement bien conservé. Parce qu'on a tous les éléments qu'on va retrouver systématiquement dans les châteaux à cette époque-là.
Visite radiophonique.
La chapelle, le logis et chaque bâtiment est positionné, non pas forcément sur une volonté de composition architecturale, mais vraiment en fonction de la place qu'on avait.
Visite
radiophonique.
Caroline Entraigue.
Nelly Lafond.
Une émission proposée par 48FM avec le Pays d'Art et d'Histoire Mandelot Angers-Vaudan et le Conseil d'architecture, d'urbanisme et d'environnement de la Lozère.
Alors, ça fait plus d'une heure qu'on fait de la route, c'est très beau par ici. On arrive où, Caro ?
Mais là, on arrive sur le plateau du Chassezac, sur la Margeride.
Pour visiter quoi, Nelly ?
Ben, tu vois au loin une silhouette imposante. Et ben, c'est la gare de Guérin. On t'amène aujourd'hui visiter un des plus beaux villages de France.
La gare de Guérin, géographiquement, pour expliquer à nos auditeurs, c'est où exactement ?
Alors, la gare de Guérin, on est au-dessus du lac de Villefort. Et on est à côté des gorges du Chassezac. On est vraiment à la frontière avec l'Ardèche.
On est sur la commune de Prévenchères.
Alors pas loin d'ici, il y a la Bastide, il y a un excellent restaurant. Je ne sais pas si vous le connaissez, c'est le restaurant Les Pins.
Oui, tout à fait, où on vient de manger.
Voilà, on les salue, on vient de manger, très accueillant, on vous le conseille. On vient de passer Prévenchères, on peut s'y arrêter, il y a quelque chose à y observer, Nelly ?
Il y a une très très belle église romane, et juste à côté, un magnifique arbre remarquable, le tilleul de Sully, qui est vraiment à découvrir.
Le premier arrêt, Caro, on est où ?
Alors là, on redescend de la Margeride, on est quasiment à la frontière des Cévennes. On est sur le plateau de la gare de Guérin. Alors on est sur un plateau entre 800 et 1000 mètres d'altitude. On est situé entre la montagne du Goulet, les monts de l'Ardèche qu'on voit ici juste en face et le mont Lozère qui est derrière nous. On est sur un plateau granitique qui domine les gorges du Chassezac que l'on a juste en bas, qui est un lieu important d'escalade, de canyoning. Donc là on est sur le parking qui permet d'accéder à ces sites. Et puis autour de nous, donc, on voit ce paysage agricole où il y a beaucoup de pâturages, également de la céréale. Et tout ce plateau est donc classé au patrimoine mondial de l'UNESCO. Et les gorges qui sont juste en dessous, elles sont un site inscrit également. Et on est aussi sur une voie mythique de la Lozère, la voie de la Régordane.
Donc la Régordane, qui est un chemin emblématique du Gévaudan qui est connu véritablement depuis le Moyen-Âge, mais qui est certainement antérieur, hein, peut-être de l'époque gallo-romaine. Qu'est-ce que désigne la Régordane ? En fait, c'est le tronçon cévenol d'un axe majeur qui reliait l'île de France au Bas-Languedoc et à la Méditerranée au Moyen-Âge. Très rapidement, parce qu'on va pas faire tout l'historique, mais c'est l'axe majeur en fait du secteur qui va permettre en fait de nombreux péages, puisque les échanges vont être très nombreux sur ce chemin, et donc il va rapporter énormément d'argent. Jusqu'au XIVe siècle, les droits perçus sur cet axe commercial sont très élevés. On sait qu'au XIIe et XIIIe siècle, le climat devient chaud et sec. Donc l'agriculture va produire abondamment, la population croît et les échanges se multiplient. Donc. Et c'est à ce moment-là qu'on va aménager cette route. On va la paver, on va construire des ponts, on va permettre aux charrettes de monter voilà, sur la plaine, de circuler dans la montagne. On a de nombreuses traces d'ornières sur de nombreux passages de la voie. Et donc ça va être un lieu, là où nous nous trouvons, un lieu stratégique, politiquement, économiquement, sur tout le territoire. C'est d'ailleurs pour ça que l'évêque va se positionner ici à un moment donné, j'en reparlerai. Qui dit lieu stratégique, qui dit construction. On est ici donc à la gare de Guérin.
Et donc on est pile poil à mi-chemin entre la Bastide et Villefort. Donc c'est vraiment un lieu stratégique puisqu'on est un peu contraint par la, ici aussi par la géologie. Et donc on ne peut pas passer par les gorges du Chassezac qui sont vraiment très abruptes, qu'on voit juste à côté de nous. Derrière la gare de Guérin, il y a les gorges de l'Altier qui sont aussi, elles, très abruptes. Donc le passage obligé, c'est par ce plateau de la gare de Guérin. Donc c'est là forcément que va s'installer cette construction et ce village dont on voit la silhouette juste derrière nous. Donc là, on est sur le parking qui sert d'accès pour l'escalade et le canyoning. Et tu peux voir, Ludo, sur ta gauche, la ferme fortifiée du plateau du Roure, qui est un plateau symétrique à celui de la gare de Guérin, juste là. Et ce qu'on te propose, c'est d'emprunter la voie de la Régordane pour arriver par la voie historique sur le village que nous avons en face.
Allez, allons-y. Allez, on vient d'arriver à la gare de Guérin, c'est magnifique, ouais. Magnifique village tout en pierre.
Oui, c'est un village qui a conservé tout son caractère médiéval, bien qu'il y ait d'autres constructions qui soient apparues après, mais en tout cas, vraiment une homogénéité d'ensemble qui est remarquable. Alors, tout à l'heure, on disait voilà un lieu stratégique qui va avoir plusieurs fonctions. D'abord, un lieu d'accueil pour les voyageurs, donc un lieu d'hospitalité. Un castrum, ça Caroline va en parler tout à l'heure, avec une fonction défensive. On a besoin de défendre ce territoire pour en conserver les droits, on va dire. Une fonction de péage, donc des droits de péage qui étaient prélevés ici. Et une fonction de police pour surveiller les allées et venues sur la Régordane.
Je ne sais pas si tu te rappelles, Ludo, le mot castrum, on avait entendu parler lors du château du Tournel.
Absolument.
Voilà, donc on est un peu sur la même configuration ici. On parlait aussi de castrum à l'époque. Donc, ce qui fait que c'est un castrum, c'est que c'est un village qui est fortifié. On voit encore assez bien l'ensemble des fortifications. On peut aussi voir par endroits les fossés qui était tout le long de cette fortification. Et donc c'est un village qui comprenait deux portes, la porte du Rachas, donc du côté nord par lequel on est en train de rentrer, et la porte Saint-Michel, côté sud, donc en sortant du chemin de la Régordane pour nous, Saint-Michel qui est le saint patron de la ville. Alors ces remparts, ils étaient de 6 à 8 mètres de haut, et ils ont une largeur d'à peu près 1,60 m. Et donc ils sont en grès et en granit. Et puis ce qu'on peut voir aussi, qu'on verra à la fin de la visite, c'est que pour être un castrum, il faut un château. Donc on va aller voir cette tour reste du château.
Donc on rentre dans ce village vraiment, vraiment typique.
Oui, donc on vient de passer là des maisons avec 12 ouvertures à meneaux et traverses. Donc c'est la croisée hein, que l'on voit sur les façades. C'est des maisons assez riches, assez cossues. Et on voit sur certaines ouvertures des blasons, les blasons des seigneurs pariens donc, dont va vous parler Nelly.
Oui, donc effectivement, le village de la gare de Guérin était détenu à partir du XIIe siècle par une co-seigneurie, c'est-à-dire qu'il n'y avait pas un seul seigneur, mais plusieurs seigneurs, ces fameux chevaliers pariés, qui se partageaient en fait le territoire. Donc ils possédaient le village de la gare de Guérin, mais pas que, aussi le tronçon de la Régordane, de la Bastide jusqu'à Villefort. Donc ils en détenaient les droits. Comment fonctionnait cette seigneurie? Eh bien, sous des statuts de collectivité, enfin pas de collectivité, mais une sorte d'association qui régissait en fait les droits et les devoirs des chevaliers. Ces fameux chevaliers pariés, donc pariés, ça veut dire égaux.
Et pour te montrer à quel point ils sont égaux, si tu regardes juste à droite, tu verras que les maisons, elles ne sont pas accolées. puisque du coup, on évitait toute mitoyenneté. Donc chacun était chez soi, et on a dans tout le village cet écart qui peut faire environ entre 30 et 40 cm, et qu'on appelle le pan du roi. Voilà, donc on a peu de maisons mitoyennes, chacun laisse un petit espace entre ses propriétés.
C'est rare ça d'avoir ces espaces habituellement dans les villes ou villages fortifiés, il y a beaucoup de mitoyenneté.
Oui, mais en fait c'est dû au statut et au fonctionnement spécifique du site de la gare de Guérin avec cette multiplicité de seigneurs pariés.
Ce qu'il faut s'imaginer, c'est que du coup, comme on est dans une co-seigneurie, donc c'est pas la seule, hein, Gévaudan, on en a dans d'autres secteurs, c'est que chaque seigneur avait une maison, habitait à la gare de Guérin, et donc il faut sûrement s'imaginer, mais on en reparlera quand on ira voir le site du château, qu'il n'y avait pas sur un château. En fait, les seigneurs vivaient dans des maisons, dans le village. Et donc, ce fonctionnement particulier de la co-seigneurie, ben, on va en retrouver des traces, en fait, dans l'architecture, notamment, voilà, comme le disait Caroline, avec les maisons, mais aussi dans les lieux de vie communautaires. On va retrouver ça à plusieurs endroits. Et puis, un seul sceau pour l'ensemble de la communauté. Il faut garder à l'esprit que l'intérêt collectif prédomine sur l'intérêt individuel.
Là, sur les lieux de vie collectifs, on vient juste de passer le four banal, donc qui est vraiment un équipement typique des villages, des petits villages, hein, voilà, donc qui est un équipement commun. Et on verra tout à l'heure l'église. Donc là, on peut remarquer que le village est très, très bien conservé, plutôt très bien restauré. On voit donc ce village de grès avec une certaine richesse dans la construction. On voit, comme ici, des fenêtres qui sont avec des maçonneries qui ont été taillées, qui ont été sculptées. Énormément de fenêtres à meneaux et traverses, donc vraiment traces du Moyen-Âge. Et tous ces arcs plein cintre en pierre, signe d'une véritable qualité architecturale, quoi.
Et on voit toujours cet espacement entre chaque maison, ouais.
Ah oui, on va le retrouver quasiment tout le long. Donc il faut savoir que dans le village, il n'y avait pas que des maisons d'habitation, il y avait aussi des fermes. Donc la ferme Pensier, qui maintenant est l'auberge de la Régordane. Donc les bâtiments, on n'a pas que des habitations, on a aussi des étables, des granges, puisque n'oublions pas que nous sommes sur un plateau où il y avait énormément d'élevage de céréales.
Très peu d'habitants aujourd'hui.
Oui, alors aujourd'hui on est plutôt sur un village de résidence secondaire, mais c'est vrai qu'il a été sauvé un peu de la disparition et qui maintenant est plutôt très bien restauré, ce qui n'était pas forcément le cas dans les années 60.
Ici on a donc sous les yeux un blason sur lequel on peut lire P et G. Et une date, donc ça on va le retrouver à d'autres endroits. Alors souvent on a CP pour chevalier parier ou avec un G pour garde Guérin. Mais voilà, on a un seul blason pour l'ensemble des co-seigneurs en fait. Ce qu'il faut rajouter aussi, on a un village qui est très très bien conservé, mais qui a subi donc évidemment plusieurs conflits, notamment les guerres de religion où il va être en partie détruit. Et donc c'est suite aux guerres de religion qu'une bonne majorité des maisons vont être reconstruites, donc au 16e, 17e siècle.
Lily, tu veux rajouter quelque chose sur les arches que l'on voit là devant nous ?
Oui, c'était pour compléter ce que nous disait Caroline sur l'architecture. Une fois de plus, on retrouve ici toutes les fonctions de ce lieu. Donc au-delà de la fonction agricole que le village a toujours aujourd'hui, on va retrouver celle d'hospitalité, d'hôpital, donc pour accueillir les voyageurs. Donc les portes charretières aussi servaient à pouvoir accueillir tous ces voyageurs, ces pèlerins et tous les échanges commerciaux qui passent par cette voie de la Régordane.
Et puis cette voie, elle a vraiment marqué la composition du village. Là, on est dans la rue principale, donc qui mène des deux portes dont on a parlé tout à l'heure, la voie de la Régordane. Et on voit que les bâtiments sont quasiment tous alignés avec la rue. Les cours se situent plutôt à l'intérieur du volume bâti. Et une autre rue importante, celle que l'on va prendre, qui mène à l'église et au château. Voilà, donc c'est important de voir que ce sont ces deux axes qui structurent véritablement ce petit village fortifié.
Je suis le roi suis le roi d'un palace antarctique. Quand t'es pas là, je patine, j'ai le myocarde titanique. Des fois, je me noie au sommeil mécanique. Mes violons prennent l'eau dans ma tête comme un hic. Je suis un ballroom déserté où les robes tournent seules. Je suis pathétique à pleurer. Dis, t'as pas vu ma gueule. Je suis un ballroom déserté où les robes tournent seules. Je dors sur la banquise, je me fiche comme une stalactite. Dors de tes bras, je me brise, degré zéro est ta limite. Je me titanise, je dérive au soleil en fuite. Solo sous l'eau, cavalier, fondu, fendu, je suis coulé.
On arrivait à ce qu'on peut imaginer être le centre du village, c'est-à-dire l'église.
Oui, on est là sur la place, hein, c'est la seule véritable place qu'il y a dans le village de la gare de Guérin. On est face à cette église qui est un très bel exemple d'architecture. Tu peux voir à l'entrée les chapiteaux qui sont sculptés. Donc là, on ne va pas rentrer à l'intérieur parce que c'est fermé, mais il y a une richesse de décor. Dans cette petite église qui en fait une église assez remarquable pour la Lozère.
Richesse de décor, c'est-à-dire tu peux nous le décrire un peu ?
Oui, donc on a des chapiteaux sculptés avec soit des motifs floraux, soit des motifs historiés tout simplement. Peut-être Nelly, tu peux compléter sur la partie église ?
Juste dire qu'elle est dédiée à Saint-Michel, évidemment, le saint patron des chevaliers barillés, qu'elle date a priori du XIIe siècle et que c'est une église classée. Et donc, oui, effectivement, elle présente vraiment la particularité, l'originalité d'avoir de nombreux chapiteaux sculptés, historiés, ce qui est très rare en Gévaudan, puisque nous, notre art roman se caractérise vraiment par la rareté de la sculpture. Et ici, on a quand même de très, très beaux exemples.
Et pour compléter, donc sur ce site, on a deux monuments historiques. On a l'église et également le château qui est juste derrière nous.
Pour compléter sur l'église, donc elle devait sûrement être à l'origine la chapelle castrale de ce village fortifié. Et donc intimement liée à la co-seigneurie. D'ailleurs, elle a servi de lieu de rassemblement de l'assemblée de ces chevaliers parillés.
Et on a retrouvé lors de fouilles les cryptes des justement seigneurs parier qui étaient dans la gare de Guérin.
Est-ce que tu peux me définir ce que c'est un seigneur parié ?
Alors, comme on disait tout à l'heure, un seigneur parié, c'est un seigneur qui va... parier, ça veut dire égal. Donc, ce sont des seigneurs qui vont partager un territoire, un domaine à part égale.
Peut-être ce qu'on peut te préciser, c'est pourquoi ça a été mis en place. En fait, cette route, il y avait énormément de brigands, énormément de vols, énormément de meurtres même. Et donc, il a été demandé de mettre en place ce système de seigneurs pariés pour veiller sur les marchands, enfin les marcheurs plutôt, qui empruntaient cette voie. Et donc, dans cette société, il y avait deux consuls qui étaient nommés pour rendre compte à l'évêque.
Qui représentaient effectivement les chevaliers pariés.
Ah, alors là, il faut préciser, on est rentré à l'intérieur de cette tour.
Oui, on est rentré à l'intérieur pour le vent notamment. Donc ce donjon, c'est l'une des seules traces un petit peu de cette époque médiévale. On le date à peu près du XIIe siècle. Donc ce donjon, il possède 5 niveaux. Aujourd'hui, on n'en voit que 4. Donc là, on est rentré par le premier étage. Les escaliers qu'on a empruntés sont plus contemporains, hein. Ils ne datent pas de l'époque médiévale. Et on voit sous nos pieds une trappe qui permet d'accéder en fait au rez-de-chaussée. Ce sont des pièces qui sont voûtées, comme on avait pu le voir au Tournel. Et au-dessus ont été mis des mâchicoulis. Donc les mâchicoulis, c'est ce qui sert à... C'est des corbeaux en pierre, hein, qui servent à jeter des pierres sur les ennemis. Et donc, on avait en bas de cette tour un épaulement en terre qui servait à faire ricocher ces pierres. Donc, on peut monter dans les étages aujourd'hui avec un escalier en métal, puisque la tour a été aménagée pour la visite. Mais à l'époque, on accédait par des échelles qu'on montait d'un niveau à l'autre par ce petit trou. L'idée, c'était le dernier endroit où on pouvait se replier. Hein. Donc les mâchicoulis qu'on a vus au-dessus dateraient certainement du XIIIe et XIVe siècle. La tour, elle a une base carrée d'à peu près 6 mètres par 6. Et le cinquième niveau que l'on ne voit pas aujourd'hui, en fait, c'est certainement qu'il y avait une charpente au-dessus de ces mâchicoulis qui donnait vraiment toute sa hauteur à la tour. Et on voit très bien que le château et cette donjon est venu s'implanter sur cette partie nord du village, qui est la plus haute, où on domine, on l'a vu, toutes les gorges du Chassezac, également toute la rive nord depuis la Bastide. Et on domine également toute la vue sur le village. Donc c'est vraiment une position très stratégique. Je ne sais pas si tu as remarqué, Ludo, sur la façade extérieure, les pierres ont un aspect un peu particulier. Donc c'est une très belle construction, on a des pierres de taille, et qu'on va appeler à bossage. Tu vois, ils ont fait une espèce de forme de fausse bosse sur les pierres qui a été vraiment taillée. Donc c'est un appareillage tout en grès.
Un appareillage à bossage qui a comme fonction la principale, la fonction défensive. En fait, on est là dans ce que disait Caro, le donjon, qui va avoir une valeur défensive, mais aussi symbolique. C'est cette tour qui va marquer la puissance des seigneurs. Alors, il ne faut pas s'imaginer au Moyen-Âge avec un château tel qu'on a pu le voir, par exemple, au Tournel. Puisqu'a priori, les co-seigneurs ont des maisons dans le village, donc ils n'habitent pas dans le château. Donc, est-ce qu'il y avait d'autres bâtiments autour ? C'est probable, mais certainement pas de fonction résidentielle, comme on a pu le voir dans d'autres châteaux. Deuxième tranche de travaux va se faire au XVIe siècle, puisque la co-seigneurie en fait, va être rachetée entièrement par le fameux marquis Molette de Morangès, dont on a déjà parlé au château du Boy, pour ceux qui ont suivi nos autres émissions. Il va donc racheter le village de la gare de Guérin et faire construire un château dont on a les ruines à côté de cette tour où nous nous trouvons. Alors, il ne reste vraiment pas grand-chose de ce château.
On va aller le voir tout à l'heure, hein, mais c'est vrai qu'il reste peu de choses et il n'y a pas eu encore assez d'études fournies et de fouilles assez poussées pour savoir exactement à quoi il pouvait ressembler. Hein.
On peut certainement le rapprocher du château de Castanet, qui est situé pas très loin. Donc, un château construit ex nihilo, dans un contexte, une fois de plus, défensif, et qui va petit à petit être abandonné dès la fin du XVIIe siècle, parce qu'en fait, les propriétaires, donc les Molette de Morangès, vont préférer des châteaux plutôt de plaisance, beaucoup plus confortables, et notamment vont préférer leur château de Saint-Alban.
Et donc ce château, on a peu de traces aujourd'hui puisqu'il a été détruit, hein, notamment lors d'un incendie en 1722. Donc aujourd'hui, on ne voit que quelques murs de cet ensemble dont on devine en tout cas la volumétrie.
Alors là, on vient de sortir, donc là, on voit des pans de murs, des ruines. Alors c'est les ruines de quelle époque? De Morangiès ou d'avant?
Alors c'est les ruines du château de Morangiès. Juste devant, tu vois la citerne. Donc comme pour le château du Tournel et les autres châteaux du territoire, il y avait une citerne qui fait celle-ci 12 mètres de profondeur pour du coup être autonome en eau. Et juste derrière, donc on voit les restes de ce château qui était probablement sur trois niveaux. On voit, tu vois sur les murs la trace des poutres. Voilà. Et on voit une fonction un peu domestique, donc sur le mur qui est à gauche, on va voir une cheminée, qui dit cheminée, dit foyer, donc dit cuisine, donc on peut deviner cette fonction un peu résidentielle. Et ce château avait deux tours carrées, dont on voit ici un petit peu les traces à droite et les traces derrière à gauche.
Donc voilà, il faut imaginer un plan massé en fait, hein, assez sobre, fonctionnel. Avec voilà, un logis assez rectangulaire et assez simple en fait dans sa conception, puisque la fonction défensive prédomine encore dans ce château.
Pour te dire, ce château avait deux voire trois remparts. On avait les remparts de la ville, les remparts ici de l'enceinte du château et également les remparts du coup de cette façade de château qui est très peu percée, qui servait elle aussi de rempart défensif avec ses tours. Donc on était vraiment sur quelque chose de très défensif, très protecteur.
Pour conclure, ce qu'on peut dire sur la gare de Guérin et la Régordane, c'est que la voie, ce chemin, va être abandonné entre 1840 et 1860. C'est le moment où on va construire la route départementale. Et donc, petit à petit, ça va engendrer le déclin aussi du village.
Le site, il a été fortement restauré dans les années 30, puis ensuite dans les années 60 et 70. Et du coup, aujourd'hui, son développement principal, comme pour la Régordane, à l'attrait touristique en fait.
Pour finir, l'anecdote pour briller en société.
Alors Ludo, si je te dis Semeur, Western et Bâtard de Dieu, tu penses à quoi?
Alors Semeur, je sais, c'est un film qui a été dernièrement tourné ici, mais les deux autres, je ne sais pas.
Eh bien, c'est des films qui ont été tournés, effectivement, à la gare de Guérin. Justinien ou Le Bâtard de Dieu, c'est un film qui a été tourné dans les années 90 à la gare de Guérin. Alors, il n'a pas eu un grand succès, on va dire, mais il est encore dans la mémoire de beaucoup de Lozériens, puisque nombreux ont été ceux qui ont tourné, en fait, dans ce film. Et le Western, en fait, c'est un film de Jacques Baudouin, qui a été tourné en juillet 2019, quelques scènes. Un Western, on n'a pas encore le titre, puisque le film n'est pas sorti encore.
On a une actualité sur la gare de Guérin?
Ah bien, une actualité intéressante. En 2017, la gare de Guérin a été dans le périmètre du pays d'art et d'histoire Mandelotte en Gévaudan.
Donc en cours de labellisation, normalement courant 2020.
Donc l'été, de nombreuses visites sont organisées via l'office de tourisme, via l'association, auxquelles tout le monde peut participer.
Alors Nelly, on va aller où le mois prochain?
Ah, on est encore en train d'y réfléchir, mais on va rester dans la thématique des châteaux. Même si le site est quand même voilà, en ruine, il est extrêmement bien conservé parce qu'on a tous les éléments qu'on va retrouver systématiquement dans les châteaux à cette époque-là.
Visite radiophonique.
La chapelle, le logis et chaque bâtiment est positionné, non pas forcément sur une volonté de composition architecturale, mais vraiment en fonction de la place qu'on avait.
Visite
radiophonique.
Caroline Entraigue.
Nelly Lafont.
Une émission proposée par 48FM avec le Pays d'Art et d'Histoire Mandelotte en Gévaudan et le Conseil d'Architecture, d'Urbanisme et d'Environnement de la Lozère.